C'est donc le moment venu pour écouter Madame Kian sur l'islam iranien face aux luttes pour la laïcisation par le bas. Je vous invite donc à monter à la chaire.
Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très honorée d'être là aujourd'hui parmi vous pour vous parler tout d'abord un petit peu de l'Iran, un peu contextualiser de quel pays et de quelle société on parle avant de vous présenter l'histoire des luttes des Iraniennes, parce que si aujourd'hui on voit beaucoup de femmes et en particulier de jeunes femmes dans les rues en Iran un peu partout, eh bien c'est parce qu'il y a un contexte historique, parce que le mouvement des femmes en Iran remonte au début du XXe siècle. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et je voudrais dire que les Iraniennes, cela fait plus de peut-être 120 ans qu'elles se battent pour obtenir leurs droits. Mais avant ça, juste pour situer l'Iran, vous savez que l'Iran est un ancien empire, donc c'est une mosaïque ethno-linguistique et si religieuse. Si aujourd'hui je vais plutôt parler des chiites, puisque c'est la religion majoritaire, mais il y a aussi une minorité importante sunnite, l'autre islam, d'ailleurs l'islam majoritaire dans le monde musulman, qui existe aussi en Iran. L'Iran a été formé au cours de 7000 années et possède l'un des états les plus anciens au monde. Donc, si vous regardez l'Iran, eh bien, même aujourd'hui, il se situe à la croisée de Moyen-Orient, d'Asie, d'Asie centrale et du Caucase. Donc, c'est un courant civilisationnel qui a traversé l'Iran. Mais si on regarde l'Iran, c'est aussi pas loin de la péninsule arabique, c'est-à-dire lieu d'émergence de l'islam. Et donc, l'Iran a beaucoup aussi influencé l'islam. Le voile était une tradition émanant pas seulement de l'empire perse, mais en tout cas ce voile a beaucoup influencé l'islam et également d'ailleurs selon Pauline Bepp, en tout cas aussi les juives. Si les juives aujourd'hui portent le voile, selon elle, ça peut venir aussi de l'Empire perse. Voilà. Mais parce que, comme aujourd'hui, il y avait une sorte de mondialisation, entre guillemets, aussi à l'œuvre à l'époque. En tout cas, beaucoup plus, limitée qu'aujourd'hui, mais ça existait. Alors, les Arabes ont conquis l'Iran au 7e siècle de notre ère. L'empire donc perse sassanide à l'époque s'effondre et aussi la religion zoroastrienne, qui était la religion iranienne de l'époque, aussi va graduellement, non pas disparaître, mais décliner au profit, bien sûr, de l'islam. Sauf que, à l'époque, jusqu'au XVIe siècle, la religion officielle de l'État en Iran était l'islam, pas l'islam chiite. Ça le devient au XVIe siècle avec l'empire safavide, qui est un empire très important. La splendeur de Isfahan aujourd'hui en particulier montre l'importance de cet empire qui fait du chiisme la religion de l'État en Iran. Et à côté, vous avez l'empire ottoman, enfin vous aviez l'empire ottoman qui lui est le califat sunnite. Et il y avait énormément de rivalités, beaucoup de guerres entre ces deux empires, dont l'un représentait le chiisme, l'Iran, et l'autre le sunnisme, en l'occurrence les Ottomans. Alors, l'islam sunnite existe aussi en Iran, comme je vous le disais. C'est très difficile d'estimer le nombre des sunnites aujourd'hui. Comme j'ai fait des enquêtes nationales en Iran, je situe entre 13 et 20% de la population iranienne qui serait sunnite, essentiellement dans les ethnies comme kurdes, comme balouches, turkmènes en particulier. Maintenant, il y a aussi des minorités religieuses officiellement reconnues par l'islam, les chrétiens, les juifs et les zoroastriens qui continuent à vivre en Iran, même si leur nombre a beaucoup diminué depuis le début de la révolution. Et il y a aussi une religion qui n'est pas reconnue du tout en Iran, c'est le Baha'i. Le Baha'i parce que c'est une religion qui date du 19e siècle et donc ça veut dire une religion post-islamique et donc raison pour laquelle cette religion n'est pas reconnue et les adeptes de cette religion qui sont très nombreux en Iran, j'estime leur nombre entre 400 à 500 000, sont persécutés. Emprisonnés, dépossédés de leurs biens souvent. Si l'État apprend qu'il s'agit des Baha'is, leurs enfants sont privés d'éducation, etc. Donc c'est une minorité très persécutée, les Baha'is, ce qui n'est pas le cas d'autres effectivement minorités religieuses parce qu'elles sont officiellement reconnues par l'islam. Alors, contrairement au fait qu'un État islamiste soit au pouvoir en Iran, la révolution iranienne aboutit finalement à des transformations sociales très importantes. De sorte qu'aujourd'hui, 75% des 83 millions d'Iraniens habitent en milieu urbain, ce qui est vraiment très important, parce que l'urbanisation, ça veut dire aussi la nucléarisation des familles. Presque toutes les familles iraniennes sont aujourd'hui nucléaires. Il y a énormément de ressemblances avec ce qu'on constate, par exemple, en Europe. C'est une population relativement jeune. 70% des Iraniens ont moins de 40 ans. Donc, ce sont des Iraniens qui n'ont pas vu la révolution iranienne qui date d'il y a 44 ans, ni même la guerre Iran-Irak, qui a débuté en 1980. Donc c'est une population néanmoins qui est très ouverte sur le monde. Justement, je dis néanmoins parce que c'est paradoxal avec l'existence d'un régime islamiste. C'est une population très bien alphabétisée. Presque tous les jeunes âgés de 6 à 24 ans sont alphabétisés. Il y a plus de 4 millions de jeunes dans les universités iraniennes, dont la majorité de filles. Ce qui est très important, c'est que le taux de fécondité des femmes a été ramené à 1,6. C'est-à-dire les femmes fécondes ne donnent plus enfants que 1,6 enfants, c'est-à-dire moins qu'en France. Tout ça, des conséquences d'une meilleure éducation, de l'urbanisation, mais également de la crise économique qui frappe ce pays. Alors donc, ce que je voudrais vous montrer, c'est qu'il s'agit là d'une société moderne qui aspire effectivement à la modernité, à l'ouverture sur le monde. 70% des Iraniens ont accès à Internet, même dans les villages, tout le monde a un téléphone portable, un smartphone comme on dit, et donc les Iraniens savent ce qui se passe bien sûr dans le monde malgré les coupures d'Internet d'aujourd'hui. Donc vous avez d'une part cette société qui par ailleurs a une histoire de lutte, comme je le disais, pas seulement les femmes mais les hommes aussi, pour la démocratie, contre le pouvoir absolutiste qui remonte à la révolution constitutionnelle iranienne de 1906, la première révolution constitutionnelle au Moyen-Orient. Les femmes ont participé activement à cette révolution donc déjà 1905 où elles ont créé ce qu'on appelle des associations secrètes pour discuter de leurs droits à la fois sociaux mais aussi politiques et beaucoup d'entre elles ont participé activement à la révolution prenant même pour une partie des armes mais elles ont été assez rapidement désarmées par leurs frères constitutionnalistes et on leur a dit mais vous nous soutenez mais vous ne participez pas vous-même directement à la révolution. Elles ont continué à soutenir la révolution en 1909 en revendiquant les droits politiques et en 1911 contre les ingérences russes et britanniques à l'époque. L'Iran, contrairement à beaucoup de pays de la région que vous connaissez, n'a jamais été colonisé, mais a constitué la sphère d'influence des Russes par le nord, des Britanniques par le sud, qui avaient déjà occupé l'Inde et donc avaient l'Empire des Indes et s'intéressaient à l'Iran. Donc le fait qu'un pays soit intéressé par deux puissances coloniales a sauvé l'Iran de la colonisation. De ce fait, la langue persane qui remonte à il y a plus de 1000 ans, le persan qu'on parle aujourd'hui existait aussi à 1000 ans. Donc la langue constitue un véhicule important de culture et certaines traditions bien évidemment qui persistent encore aujourd'hui. Après, bien sûr, les termes scientifiques ou techniques ont été rajoutés à cette langue. Donc vous avez d'un côté une société devenue moderne dans son ensemble. J'ai fait aussi beaucoup de recherches dans les villages iraniens. Dans la grande majorité aussi, il y a toujours une école, un dispensaire, etc. Et donc les jeunes aussi vont à l'école. En revanche, si vous regardez les lois et les institutions, qu'est-ce qu'on constate? Ce sont des lois archaïques selon lesquelles les femmes sont considérées comme des citoyennes de seconde zone, placées sous la tutelle des hommes à vie. D'abord sous la tutelle de leur père et ensuite sous la tutelle de leur mari, selon les lois islamiques en vigueur en Iran. Donc, étant donné l'existence, si vous voulez, de cette société moderne, d'une part, cette lutte très importante des Iraniennes pour leurs droits, après la révolution constitutionnelle, elles ont continué à revendiquer leurs droits, y compris dans les mouvements sociaux, il y a toujours des femmes iraniennes présentes. 1951, juste pour vous rappeler, première volonté d'un État au Moyen-Orient de nationaliser son pétrole, puisque c'était la richesse nationale. Sous le premier ministre Mossadegh, les femmes ont beaucoup participé aussi à ce mouvement et ont soutenu donc la nationalisation du pétrole sous Mossadegh, qui était un premier ministre démocratiquement élu et vraiment démocrate. Ce premier ministre sera effectivement renversé et emprisonné suite à un coup d'État de la CIA, le premier coup d'État de la CIA organisé dans le monde, c'est aussi en Iran, contre un gouvernement démocratique. Donc après, il ne faut pas venir dire que les Iraniens ou d'autres pays du Moyen-Orient ne connaissent pas la démocratie, ne savent pas ce que c'est, puisque les volontés pour la démocratisation ont existé et ont été souvent heurté à une volonté, à l'époque en tout cas états-unienne, d'aller à l'encontre de ça. Pourquoi? Parce qu'on est en pleine guerre froide et que les Américains et les Occidentaux en général voulaient déjà garder le pétrole iranien et que souhaitaient aussi que l'Iran reste dans le camp occidental. C'est un grand pays. Il ne faut pas oublier que l'Iran partageait 1600 km de frontières communes avec à l'époque, dans les années 40, 50, 30, etc., les soviétiques. Et donc, c'est important de prendre aussi en compte cette importance géopolitique de l'Iran. Tout à l'heure, on parlait justement de la contribution actuelle du régime islamique d'Iran à la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine, à travers des drones et l'envoi aussi des conseillers militaires. Mais bien sûr, on ne peut pas comprendre ce qui se passe dans un pays sans regarder aussi cette dimension géopolitique. Mais on ne va pas l'aborder aujourd'hui, on n'a pas peut-être le temps. En tout cas, ce que je voudrais dire, c'est que les Iraniennes continuent à revendiquer finalement un certain nombre de leurs revendications, à savoir les droits politiques, mais également un certain nombre de leurs droits civiques et sociaux vont être, obtenus sous le régime du Shah d'Iran, qui arrive au pouvoir en 1941, mais surtout a pris beaucoup de pouvoir après le coup d'État de 1953, parce que les Américains vont aider beaucoup l'Iran à la fois militairement, mais aussi pour moderniser le pays. Et donc les femmes obtiennent les droits politiques en 1963 et aussi un certain nombre de droit civique à partir de 1967. De sorte que, en Iran, les femmes, l'âge minimal de mariage pour les femmes sous le Shah d'Iran était de 18 ans, légalement. Que les femmes avaient obtenu beaucoup de droits, y compris le droit au divorce, à la garde de leurs enfants après le divorce, mais également les femmes avaient commencé à être dans tous les métiers, y compris dans la magistrature, dans l'armée, la police, etc. C'est-à-dire les métiers qui étaient jusque-là, jusqu'à avant les années 60, surtout propres aux hommes. Lorsqu'il y a eu la révolution de 1979, vous savez, à cette révolution, beaucoup de femmes ont participé. Pourquoi ? Elles ont participé parce que le Shah d'Iran avait un régime dictatorial aussi. Le régime islamique a dépassé les bornes, est beaucoup plus répressif que le régime du Shah d'Iran, mais il ne faut pas oublier que le régime du Shah d'Iran était aussi un régime dictatorial. Il n'y avait pas de liberté d'expression, de presse, il y avait beaucoup de prisonniers politiques. Et en même temps, la différence principale avec ce régime actuel, c'est que les gens avaient la liberté individuelle. Le port du voile n'était pas obligatoire, bien évidemment. On pouvait se vêtir comme on le souhaitait. On pouvait sortir avec qui on voulait. On ne venait pas vous arrêter dans la rue en disant qui est ce monsieur avec vous ou qui est cette dame avec vous, etc. C'est-à-dire que les Iraniens et Iraniennes avaient leurs droits individuels, mais pas de, si vous voulez, liberté politique. Donc c'est ça qui avait emmené les femmes iraniennes à participer à la révolution aux côtés des hommes sans aucune revendication propre aux femmes. Mais un mois après la victoire de la révolution, et contrairement à la promesse de l'ayatollah Khomeini c'était le chef, le leader de la révolution, grâce à sa venue en France, et à son à Naufle le château près de Paris, eh bien il était interviewé beaucoup par la presse, et donc presse donc occidentale, et nous en Iran à l'époque il n'y avait pas d'internet, il n'y avait rien, il y avait juste une radio-télévision officielle, mais grâce aux journalistes occidentaux, on pouvait lire ce que disait Khomeini. Khomeini disait « l'islam est totalement compatible avec la démocratie, le gouvernement futur sera un gouvernement démocratique, les femmes iraniennes allaient garder tous leurs droits et allaient en obtenir davantage ». Et donc, il a obtenu l'adhésion de beaucoup de femmes iraniennes parce que les iraniennes ne connaissaient pas réellement le clergé chiite. Le clergé chiite, après 1963, avait été ghettoisé dans les villes saintes comme Rome ou Machal. Donc, si vous fréquentiez pas Rome, qui était une ville, si vous voulez, à 100% habitée par le clergé, eh bien, on ne les voyait pas dans notre vie quotidienne. Et donc, dépourvu d'aucune. Et puis à l'école, on ne nous enseignait pas tout ça non plus. On ne connaissait pas Khomeini non plus, sauf si vous faisiez partie des familles religieuses, traditionnelles, etc. Mais les autres n'avaient jamais entendu parler réellement de Khomeini. Donc, les Iraniennes l'ont cru. En tant que chef spirituel, il vous dit que les femmes allaient maintenir leurs droits et allaient en obtenir davantage. Donc les femmes ont beaucoup participé aussi à cette révolution, mais un mois après la victoire de la révolution, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il revient sur toutes ses promesses et donc il commence à se comporter non plus en tant qu'un chef spirituel religieux, mais en tant qu'un homme d'État islamiste. Des milliers de femmes prennent les rues à Téhéran contre le port obligatoire du voile et contre la régression de leurs droits. Elles seront assez rapidement tabassées et dispersées. Et assez rapidement, il y aura deux événements majeurs qui expliquent pourquoi les islamistes se sont maintenus au pouvoir, ben, c'est la première prise d'otage en Iran, c'est les diplomates états-uniens, américains, qui seront pris en otage pendant 444 jours, ce qui aboutit à la rupture des relations diplomatiques. Et deuxième, c'est la guerre Iran-Irak. Saddam Hussein attaque l'Iran en septembre 1980. Ces deux événements, eh bien, ont vraiment abouti à la mainmise des islamistes les plus durs sur la société iranienne, dont les femmes, qui sont, pour celles qui étaient dans l'opposition, seront emprisonnées, beaucoup d'entre elles seront exécutées, d'autres seront démises de leurs fonctions, beaucoup d'entre elles travaillaient, parce qu'elles refusaient de porter le voile obligatoire ou de se soumettre aux diktats des islamistes, et donc elles perdent leur emploi. Beaucoup d'entre elles quittent le pays, d'autres restent sur place. En tout cas, il y a eu des coups très importants portés aux droits des femmes et aux femmes elles-mêmes. Jusqu'aux années 1990, ceci ne veut pas dire que la société ne protestait pas, mais ce que je veux dire, c'est que la répression contre les femmes était très, très forte. Pendant les années de guerre Iran-Irak, finalement, 1988, la guerre sera finie. Alors, les femmes iraniennes qui habitaient dans les régions attaquées par l'armée ou impliquées dans la guerre vont se mobiliser pour défendre leur ville et ou aller même sur le front de la guerre Iran-Irak. Mais ça n'avait rien à voir avec ce qui s'est passé, par exemple, en Europe ou en France pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire que ici, lorsque les hommes étaient sur le front de la guerre, les femmes ont pris leur place et ont revendiqué leurs droits et l'ont obtenu en partie. En Iran, c'était tout le pays n'était pas nécessairement impliqué dans la guerre, d'une part, et d'autre part, beaucoup de volontaires qui étaient très jeunes, qui n'avaient pas encore atteint l'âge de travail ou d'aller sur le front de la guerre, donc on n'avait pas besoin de les remplacer. Donc les femmes n'ont pas pu obtenir des droits grâce, entre guillemets, ou à cause de la guerre. Donc il faut faire attention dans nos comparaisons. De toute façon, après la fin de la guerre, il y a une période qu'on appelle la reconstruction qui commence, et donc les femmes spécialistes qui avaient été exclues du marché de l'emploi parce qu'elles n'acceptaient pas les diktats des islamistes, eh bien, sont devenues vraiment indispensables, hein, pour la reconstruction du pays, et donc vont retourner au travail. Et on constate que les activités des femmes pour revendiquer leurs droits recommencent de plus belle. Les femmes, les filles continuent à aller à l'université, mais jusqu'en 93, beaucoup de disciplines universitaires avaient été interdites aux femmes sous prétexte que c'était pas compatible avec l'islam. Par exemple, le droit, par exemple, beaucoup de branches de la médecine, les études d'ingénieurs, tout ça, ont été interdites aux femmes. Et donc, elles, grâce à leur persévérance, elles font que c'est en sorte que ces interdictions soient levées. Donc, ce qui explique aujourd'hui aussi la présence très active des femmes, et à partir de 1998, de façon récurrente chaque année, il y a des concours d'entrée dans les universités iraniennes, mais depuis 1998, depuis 24 ans, les filles sont majoritaires parmi les admis à l'université. Et donc, c'est une volonté aussi pour participer à la vie sociale. Ce n'est pas seulement pour étudier, mais aussi sortir de la maison, surtout pour des familles traditionnelles. C'est aussi une façon de participer à la vie sociale. Ce que j'ai pu voir dans mes enquêtes dans les villages, les petites villes, auprès des familles, c'est lorsque les parents sont analphabètes et que leurs enfants, filles ou garçons, font des études, eh bien, ces enfants obtiennent une autorité très importante, à la fois autorité sur les parents, mais aussi dans leur entourage. Donc, À partir des années 90, donc, il y a eu les féministes ou les mouvements des femmes qui, jusque-là, étaient dominés par des femmes séculières, puisque ces femmes séculières, depuis le début du XXe siècle, avaient été aussi en rapport avec un certain nombre de féministes occidentales, et donc militaient parfois même ensemble au sein de certaines associations mondiales. Jusqu'aux années 90, ce sont des séculières qui dominaient les mouvements des femmes, et sous le Shah aussi, d'ailleurs, j'ai oublié de dire, il y a eu une organisation des femmes d'Iran par la sœur jumelle du Shah d'Iran, qui bien sûr propageait aussi le sécularisme. Sauf que à partir de la décennie 90, émergent en Iran de façon collective des féministes musulmanes. Alors, c'est pas moi qui les appelle féministes, c'est elles-mêmes qui me disaient je suis ou on est féministe, mais musulmane. C'est-à-dire que, à la différence des féministes séculières, qui étaient issues des familles plutôt modernes, plutôt classe supérieure, ces femmes-là sont d'origine plus modeste. J'ai vu exactement la même chose en Turquie, puisque je travaille aussi sur la Turquie, sur les mouvements des femmes en Turquie. Donc, issus des familles modestes ou plus modestes, qui, après la révolution elle accède à l'université, elle se forme aussi pour pouvoir réinterpréter les lois et les traditions islamiques. C'est ça qui n'existait pas avant en Iran, ou très très peu. Par exemple, on avait une seule femme qu'on appelle mujtahidé dans le chiisme, c'est-à-dire une femme qui avait obtenu le degré d'ijtihad ou d'interprétation, une seule femme. Mais après la révolution, beaucoup de femmes d'origine religieuse et traditionnelle font à la fois des études universitaires, mais aussi des études dans les écoles théologiques. J'avais eu l'occasion d'ailleurs d'aller dans l'une de ces écoles religieuses pour femmes, théologiques pour femmes. Effectivement, il s'agissait de ces femmes qui disaient « Nous, on veut se former en études religieuses aussi pour pouvoir réinterpréter l'islam, parce que l'islam, jusque-là, a été interprété que par des hommes, au profit des hommes et au détriment des femmes. » Et donc là émerge un discours à la fois de la part des femmes, mais également un certain nombre de clergés, disons éclairés, qui réinterprètent les lois et les traditions islamiques pour montrer que jamais dans l'islam les femmes n'avaient été bannies d'être juges ou de diriger leur société ou d'accéder à l'autorité religieuse. D'ailleurs, c'est ce que j'essaye aussi de montrer. Après, j'ai fait beaucoup de recherches dans l'histoire de l'islam pour parvenir effectivement à la même conclusion. Et ces femmes, en fait, vont à la fois fonder des associations, mais également des journaux et magazines féminins, c'est très important, dès 1992. Et donc, le public, bien sûr, lettré en Iran, mais le public va avoir accès pour la première fois à des réinterprétations critiques, pas seulement des traditions islamiques, mais aussi des versets coraniques. Et ça, c'était très important. Vous n'êtes pas sans savoir, comme je le disais, qu'en Iran, après la révolution surtout, il y a des lois de code civil, enfin le code civil iranien est fondé sur les lois islamiques, mais une vision obscurantiste de cet islam-là. Donc ces femmes vont relire le Coran en disant « la polygamie doit être abolie ». Pourquoi ? Que selon les lois islamiques, chaque homme peut prendre 4 femmes de façon permanente. Et en Iran, il y a aussi un autre type de mariage, hein, c'est mariage temporaire, c'est-à-dire que les hommes mariés peuvent contracter un nombre indéfini de mariages de façon temporaire, allant de quelques minutes à 99 ans. Et moi, j'ai eu, là encore, j'ai rencontré des femmes qui, effectivement, s'étaient mariées pour des périodes très longues, pour juste avoir un toit, et ne pouvaient plus divorcer, parce que le divorce n'existe pas dans le mariage temporaire, c'est la durée est déterminée dès le départ. Donc voilà, le mariage doit être, la polygamie, pardon, doit être abolie. Pourquoi? Ben, on va réinterpréter l'islam et le Coran en disant ben, parce qu'au début de l'extension de l'islam, beaucoup d'hommes allaient sur le front et étaient tués. Donc leurs femmes et orphelins étaient restés sans protection. C'est la raison pour laquelle le Dieu a permis aux hommes, d'avoir 4 femmes. C'est-à-dire que l'idée, c'était la justice sociale. L'idée, c'était de s'occuper des orphelins et des veuves afin qu'elles ne soient pas obligées de se prostituer, etc. Aujourd'hui, on a des institutions sociales dans l'État moderne, hein, des institutions qui s'occupent des veuves et des orphelins, donc la polygamie doit être abolie. Je veux dire, l'ensemble des réinterprétations sont des traditions, des réinterprétations qui aussi vont parler de l'islam. Et ça désacralise, bien évidemment. À partir du moment où vous vous permettez de relire, réinterpréter de façon critique, à travers la contextualisation et l'historicisation, le texte sacré, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous êtes en train de laïciser ou séculariser, si vous voulez, la religion. Et c'est ça qui s'est passé dans ce pays. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on voyait tout le temps apparaître dans les journaux, des magazines, etc., etc., féminins en particulier. Ça avait créé un débat très important au sein des femmes plutôt qui pouvaient lire et écrire, bien évidemment, qui avaient accès à tout ça. Parallèlement à ça, vous avez un nombre de plus en plus grand de filles qui vont accéder à l'éducation, qui vont refuser de se marier à un jeune âge, qui vont continuer leurs études, qui veulent aller travailler, etc., qui font pression aussi sociale hein, sur le gouvernement. Et donc, ces deux tendances très importantes au sein de la société, avec bien évidemment des féministes séculières qui vont aussi avoir le droit de publier leurs magazines et leurs journaux et vont vraiment bouleverser cette société iranienne et vont aussi mobiliser les femmes pour essayer de participer activement dans le sort, si vous voulez, les concernant. Par exemple, lors des élections pour des candidats plus réformistes qui promettaient beaucoup de choses aux femmes pendant la campagne électorale, mais qui malheureusement, une fois au pouvoir, oubliaient leurs promesses et tournaient le dos aux femmes et faisaient comme si de rien n'était, puisque, et ça a beaucoup désillusionné les Iraniennes et a radicalisé aussi leur mouvement. Je pense que ce qu'on voit aujourd'hui en Iran, c'est une forme de radicalisation des revendications qui existaient auparavant. Avant, les femmes essayaient de répondre ou de trouver des réponses à travers leur vote pour les changements de loi au profit des femmes, ou en tout cas pour réparer cette injustice qui existe. Je vous disais, entre autres, à l'époque du Shah, l'âge minimal au mariage légal pour les filles avait été de 18 ans. Après la révolution, on nous a dit, selon le chiisme, l'âge minimal légal doit être ramené à 9 ans. 9. Des petites filles de 9 ans pouvaient se marier et pouvaient être reconnues légalement responsables de leur acte. C'est vraiment grave. Après beaucoup de tergiversations, luttes des féministes et des femmes en général, l'âge légal a été ramené à 13 ans. Mais c'est quoi la réalité de ce pays? Les femmes se marient actuellement, c'est-à-dire depuis longtemps, à l'âge de 25 ans en moyenne. Donc l'âge de 13 ans ne correspond pas à la réalité de la société. Les femmes continuent à se battre pour changement de loi à travers leur vote, mais à chaque fois, elles sont déçues. Dernière déception, 2017, lorsque elles se mobilisent à nouveau pour voter pour un candidat qui est moins conservateur que les autres, celui-là même qui voulait faire signer l'accord sur le nucléaire. Il l'a réussi, il a signé l'accord sur le nucléaire en 2015. Donc, l'idée, c'était d'ouvrir la société iranienne vers en particulier les investissements occidentaux et que les femmes puissent aussi bénéficier des retombées de cette ouverture, y compris en ce qui concerne le marché de l'emploi qui est très limité aux femmes. Eh bien, 2018, le président Trump, le président américain, sort de façon unilatérale de l'accord sur le nucléaire. Avant ça, de 2015 jusqu'en 2018, on voyait cette société, beaucoup d'énergie, beaucoup d'espoir, et ces femmes aussi, et donc à nouveau des activités des femmes qui étaient importantes. 2018, donc le président américain sort de nucléaire et le pays, d'ailleurs les sanctions contre le pétrole et le gaz iranien, et en même temps avec des effets extraterritoriaux. Donc ce qui fait que les autres pays qui allaient en Iran investir se retirent, la situation économique devient de plus en plus difficile, et on sait partout dans le monde que lorsque la situation économique est difficile, ce sont surtout les femmes, en particulier les femmes chefesses de famille, qui vont en souffrir davantage. Il y a 4 millions en Iran, entre 4 et 5 millions de femmes qui sont chefs de famille. Et donc, celles-là même sont les plus pauvres et les plus démunies et les plus touchées par, bien évidemment, la crise économique. Donc, des formes collectives de contestation des femmes, par exemple, je me rappelle en Iran, auparavant, dans les années 2000, le 8 mars, la Journée internationale des droits des femmes était célébrée de façon publique, et aussi il y avait des manifestations de rue de la part des femmes le 8 mars. Tout ça, c'est interdit, une répression qui frappe de plus en plus, et juin 2021, un nouveau président est élu sous l'ordre du guide, M. Raisi, l'actuel président, qui est un ultra-conservateur. Et à partir de là, je pense qu'on est face à ce que j'ai appelé, là c'est mon trademark, comme on dit en anglais, j'ai appelé ça la talibanisation à l'iranienne. C'est-à-dire que ce monsieur s'est agi comme les talibans en Afghanistan, sauf que comme il est en Iran, il ne peut pas faire tout ce qu'il veut. Il y a une résistance très importante, bien sûr, face à sa politique. La politique menée sous l'actuel président, par exemple, c'est d'encourager le mariage précoce. Alors, le mariage précoce en Iran, c'est avant l'âge de 15 ans. Donc, vous avez, l'année dernière, 32 000 petites filles âgées de 10 à 14 ans qui se sont mariées, encouragées par l'État. Des jeunes, très jeunes, qui se marient obtiennent beaucoup de l'argent, etc. C'est-à-dire, tout est là pour encourager le mariage précoce. Pourquoi ? Parce que il est dit que le nombre de naissances est très bas, et donc il faut encourager le mariage précoce pour que les femmes puissent donner beaucoup naissances à des enfants. La société n'a pas, ça c'est l'ordre du guide, donc la planification familiale qui existait en Iran à partir de 89 a été arrêtée, interdite, et donc néanmoins les iraniennes continuent à ne pas donner de naissance parce que il y a de, si vous comparez, il y a moins de 24% de naissances entre 2015 et aujourd'hui. Ce qui fait que la société iranienne n'obéit pas aux ordres du guide ni de ceux qui la gouvernent et poursuit son chemin. Tout ça sous prétexte que, voilà, là encore, on mobilise beaucoup de choses dans le chiisme, mais la société, si vous voulez, laïciser, va avoir ses propres arguments, dont la meilleure éducation des enfants, la vie chère, etc., ce qui fait que les gens refusent d'obéir. Alors, donc, il y a eu un mouvement aussi contre le port obligatoire de voile. J'insiste sur l'obligation, parce que ce qu'on voit en Iran aujourd'hui, c'est pas contre l'islam ce qui se passe, c'est pas contre l'islam, c'est contre l'islam politique qui est au pouvoir en Iran, l'instrumentalisation de la religion à des fins politiques, d'une part. C'est pas contre le voile en soi, c'est contre le voile obligatoire. C'est-à-dire que les Iraniennes qu'on voit dans la rue, qui résistent, eh bien, sont là pour la liberté de choix, de porter ou non le voile. C'est pas contre le voile. D'ailleurs, dans beaucoup de manifestations, vous voyez des femmes qui sont voilées, qui sont aux côtés des jeunes femmes qui ôtent leur voile, qui le brûlent, etc. Donc, voilà, c'est une, si vous voulez, en tout cas, ce qui se passe, et là, je pense que ça mérite d'être dit, parce que je vois dans beaucoup de médias une confusion entretenue entre l'islam politique et l'islam. C'est pas la même chose. Entre le voile obligatoire et le voile, c'est pas la même chose. Et donc, il y a un débat aujourd'hui, aussi c'est générationnel. Il y a beaucoup de femmes qui ont toujours grandi avec un voile sur la tête, voile traditionnel, j'entends, qui vont très probablement garder leur voile traditionnel. Des jeunes, plutôt, ont tendance à l'enlever, et d'ailleurs l'enlèvent dans des grandes villes aujourd'hui, malgré la loi qui est toujours là, elles enlèvent leur voile. En tout cas, cette lutte des femmes pour l'égalité, pour la liberté, y compris la liberté de choix, est très importante. Et pour la première fois, ce sont elles qui, le 16 septembre, suite à l'assassinat d'une jeune femme iranienne d'origine kurde qui s'appelle Jina Mahsa Amini par la police des mœurs pour avoir mal porté son voile, de façon spontanée, des milliers de jeunes femmes prennent les rues dans plusieurs villes iraniennes, à Téhéran, la capitale, mais aussi au Kurdistan où elle était originaire, et protestent contre les exactions commises par la police des mœurs et le port obligatoire du voile. Et pour la première fois, même si je vous ai dit que les femmes iraniennes ont toujours participé aux mouvements sociaux de l'Iran de 20e et 21e siècle, mais c'est pour la première fois que ce mouvement est initié par les femmes. Les femmes sont vraiment au-devant de la scène contestataire. Sinon, elles y étaient aussi en 2009, lors de ce qu'on appelle le mouvement vert, qui tentait de réformer l'islam de l'intérieur. Aujourd'hui, la majorité, et j'en termine là, je pense que j'ai fait mes 45 minutes, ou je peux continuer, vous me dites. aujourd'hui, la différence très importante avec les mouvements précédents, en particulier le mouvement vert de 2009, ou alors les révoltes qu'il y a eu en Iran 2018, 2019, etc., c'est qu'aujourd'hui, ce mouvement s'est répandu, ça a initié par les femmes, mais c'est répandu à l'ensemble des groupes sociaux, l'ensemble des villes et villages, même en partie. Et en même temps, il n'y a plus d'espoir pour les réformes. Ce que les Iraniens et Iraniennes revendiquent, et surtout les Iraniennes, c'est le changement de régime. Pourquoi ? Parce qu'elles ont beaucoup voté. Moi, j'étais en Iran, j'allais pour faire des recherches souvent lors des élections. On voyait à quel point les jeunes femmes, surtout, étaient actives pour soutenir des candidats réformistes, etc. Mais finalement, rien n'a changé. Et donc, aujourd'hui, la majorité de la société pense que les réformes ne fonctionnent pas dans ce régime, au sein de ce régime. Il faut un changement de régime. Et une fois de plus, ce sont les femmes qui sont au devant de la scène contestataire. Pourquoi ? Parce qu'en Iran, comme partout ailleurs, lorsque l'islam politique arrive au pouvoir, ben ce sont en particulier les droits des femmes, qu'il s'agisse de l'islam chiite ou sunnite, ce sont les droits des femmes qui sont visés par ce pouvoir. Sinon, si on regarde l'aspect économique, on constate que ça n'a pas beaucoup de changements, enfin, ça ne fait pas beaucoup de changements. Alors, comment est-ce que les femmes dont j'ai parlé tout à l'heure, et de façon générale, il y a deux notions dans l'islam, parce qu'aujourd'hui, vous savez que même des penseurs philosophes ou théologiens sont en train de réfléchir à comment réinterpréter les lois et les traditions islamiques et les versets coraniques pour aussi dire que, peut-être que je vais un peu dire quelque chose que je ne dois pas, mais comment peut-on reconnaître l'homosexualité aussi dans l'islam ? C'est un débat de plus en plus important. Il y a des écrits très importants aussi qui sont écrits, qui sont fondés en fait sur cette idée de quoi ? Il y a deux islams. Il y a l'islam hiérarchique qui est contre l'égalité des hommes et des femmes, l'égalité des hétérosexuels avec des homosexuels, etc., ou des trans. Et d'un autre côté, vous avez l'islam juste, l'islam qui est fondé sur la justice. L'islam, c'est ce qu'on appelle l'éthique de l'islam. Et donc, ceux et celles qui, aujourd'hui, pensent que l'islam doit s'adapter aux réalités du monde actuel, c'est ce qu'on appelle l'historicisation et contextualisation, eh bien, se fonde en fait sur l'aspect éthique de l'islam, selon lequel tout le monde est égal devant le Dieu. Et donc, qu'on soit homme ou femme, hétérosexuel, homosexuel, noir ou blanc, etc. Et donc, ça fonde sur cet aspect, si vous voulez, qui existe depuis d'ailleurs le début de l'islam. Hein, ça ne date pas d'aujourd'hui, mais ça a été vraiment minorisé au profit de cet islam hiérarchique au pouvoir à l'heure actuelle. Donc, il y a d'autres islams, et dans un pays comme l'Iran, où on est face à une société laïcisée. Bien évidemment, les institutions ne sont pas laïques. Vous savez que Jean-Paul Willem définit la laïcisation uniquement dans son aspect institutionnel. Moi, je pense qu'on peut tout à fait dire qu'une société est laïque, mais avec des institutions qui ne le sont pas, et les pressions sociales pour que ces institutions changent, qui existent en Iran. En tout cas, cet islam iranien doit répondre favorablement à cette société devenue moderne et qui aspire à l'égalité et à la justice sociale. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Désolée d'avoir été un peu longue.